Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Chat, hier, début des finales de conférence à l'Est et petit miracle, Boston s'en est sorti de justesse et l'a emporté après prolongation 133-128. Le petit miracle, c'est l'égalisation, pas au buzzer, mais à 5 secondes du buzzer de Jaylen Brown sur un tir à 3 points extrêmement compliqué. Les Pacers peuvent s'en vouloir, Shai, deux turnovers dans les 30 dernières secondes, 3 points d'avance pendant longtemps. Qu'est-ce que tu retiens de ce match ?
J'allais dire, j'allais ajouter à la liste, à ton descriptif, le fait de ne pas faire faute à plus 3, le fait de ne pas faire de temps mort sur la... Parce que juste avant le panier à 3 points, magnifique, hein, soit dit en passant, de Jaylen Brown, il y a une interception, enfin une perte de balle provoquée par Brown, justement, où sur la remise en jeu dans le camp adverse, il y a peut-être moyen de prendre un temps mort. Rick Carlisle en a parlé aussi après le match. C'est son grand regret, c'est pas tellement de pas avoir fait faute à plus 3, c'est de pas avoir pris de temps mort à ce moment-là. Et donc il a endossé la responsabilité de la défaite. Oui, les Pacers ont raté une très 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 belle occasion parce qu'ils ont fait un excellent match. Enfin, compte tenu de l'adversaire, compte tenu de la fatigue accumulée, il y a 48 heures, ils jouent un match 7. Enfin, c'est quand même c'est pas les circonstances parfaites pour affronter la meilleure équipe de la ligue à l'extérieur qui plus est, et ils ont beaucoup de mérite, ils ont été très adroits, ils ont fait ce qu'on a évoqué dans le podcast d'hier, où on expliquait pourquoi ce serait pas si simple pour Boston de se sortir de ce guépier. Indiana a fait ce qu'il fallait là, sur les trois quarts du match, et ils ont réussi à proposer une belle bagarre aux Celtics, et c'est sur la fin, ça se joue à, c'est des détails, c'est toujours comme ça dans les matchs de ce niveau-là, c'est l'expérience, le sang-froid, et Boston en a eu et Indiana un peu moins. C'est ce que je retiens de ce match, mais je retiens surtout que je pense que ce sera pas une promenade de santé pour les Celtics. Il y a toujours le match 2 qui est catastrophique historiquement chez eux.
Ouais, mais alors à chaque fois ils avaient gagné. À chaque fois, ils avaient gagné le match 1 assez nettement, et ça donnait une raison de se reposer. Là, le truc, c'est que les Pacers, alors oui, il y avait la fatigue du Game 7, mais il y avait aussi l'euphorie du Game 7, là où les Celtics étaient un peu à court de rythme. Ça faisait un petit moment. On sait que c'est toujours un peu le dilemme. Des fois, quand tu es frais, tu es encore chaud de ton match, au final, tu es un peu mieux sur le Game 1 de la série d'après. Là, il faut se remettre mentalement de ça, parce que tu te dis, mais on est passé tellement près. Et je reviens sur le fait de ne pas faire faute. C'est la troisième fois au cours de ces playoffs que les Pacers ils se retrouvent dans cette situation. Ils se sont fait punir une première fois. Contre New York, ils ne sont pas passés loin de se faire punir, mais Brunson, il a raté le tir. Et là, ils se font punir encore une fois. À un moment, je comprends que le choix, vivre et mourir avec ses idées, mais bon, c'est vrai, je pense que c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y avait quand même tout de même intérêt à faire faute. Les Celtics, dans les dernières minutes du quatrième quart-temps, étaient... pas forcément très bien. Et puis les deux pertes de balles. 21 turnovers au total pour les Pacers.
Ouais, 22 même, je crois. Non, c'était pas 22.
Ou 21 ou 22. Sachant que c'est une équipe qui, pour une équipe qui joue vite, ne perd pas toujours tant de ballons que ça, en fait.
Ouais.
C'est quand même une équipe assez propre. Et là, il y en a... Et même en prolongation, je crois qu'il y en a encore un d'Haliburton. Ils sont évitables, en fait. Ils sont évitables. Il y a... Et c'est dommage. Et passer tout près quand même comme ça de battre Boston. Les Celtics, pour le coup, ils n'avaient pas vraiment été bousculés jusqu'à présent, au-delà de ces Game 2 voilà, dont tu parlais, perdus à chaque fois assez nettement. Ah là, les Celtics peuvent se dire waouh, si on a esquivé celui-là, qu'est-ce qui peut nous arriver sur cette série, tu vois ? Ça peut être interprété, on verra bien, hein, mais ça peut être interprété de différentes manières. Tu peux te dire ok, c'est le signe que la série va être longue ou équilibrée. Ou c'est le signe de se dire, ah bah en fait, après ça, Boston, ils peuvent plus perdre et ils peuvent en gagner 3 de suite, tu vois.
Ouais, et c'est marrant parce qu'il y a direct après le match, LeBron qui regardait la rencontre, hein, a tout de suite tweeté maintenant vous comprenez pourquoi je fais faute sur à plus 3 every single time. Enfin, c'est, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont été interloqués par ce choix de ne pas faire faute. C'est pas la première fois, t'as raison, que ce soit que les Pacers passent pas loin de la correctionnelle. Les Knicks, on se souvient, Thibodeau avait dit aussi. Faire son mea culpa après et puis éviter de reproduire ça sur le match suivant. Je vais essayer d'être plutôt optimiste pour les Pacers parce que j'ai vu la recette de ce qui peut leur permettre de prendre des matchs. Je dis pas de gagner la série, hein, pour moi on en est encore loin, mais de prendre des matchs, c'est-à-dire qu'ils ont insisté à l'intérieur tant que Porzingis c'est pas là. Ils disent qu'il y a quelque chose à exploiter et ils ont marqué 56 points dans la raquette, je crois.
C'est ça.
Ils ont bien insisté. Miles Turner a fait le match que personnellement j'attendais de lui. Il a été très bon à la finition, 9 sur 13, 23 points. Il prend des rebonds, il stretch très bien, 3 sur 4 à 3 points. Un peu de protection de cercle aussi avec deux contres. Enfin, ils ont insisté sur ces paniers à l'intérieur où il n'y a pas pour le moment la menace Porzingis. Ils ont été, enfin, tu te rends compte, ils sont à Boston et ils ont shooté à 53,5% et ils perdent un match en shootant à 53. Alors qu'en face, Boston est à 47, ce qui est déjà élevé. Hein. Mais j'ai vu la recette qui permet qui a permis déjà aux Pacers de gagner des matchs avec un banc très impliqué aussi. Obi Toppin 15 points, TJ McConnell qui a fait du TJ McConnell à l'exception peut-être de son plus minus qui est à moins 8, mais qui fait 13 points aussi et beaucoup d'activité. J'ai quand même vu des bonnes choses. Même Haliburton a été un peu moins en difficulté que ce que je pensais vu le combo qui se mange entre Jrue Holiday, Derrick White, et c'est quand même pas une tâche très simple. Donc je reste optimiste pour les Pacers dans l'idée de les voir prendre ne serait-ce qu'un match ou deux dans cette série.
Oui, non, bien sûr, je disais juste sur la partie émotionnelle, mais bien sûr, il y a eu des ingrédients. D'ailleurs, Porzingis, il pourrait revenir, mais que au Game 4, a priori, donc ça ne serait pas avant le Game 4, et tu as raison, les Pacers ont insisté à l'intérieur, ils ont agressé à Horford, ils ont constamment cherché à avoir des drives sur Horford. Alors Horford, il met quand même trois blocs, mais ils ont constamment cherché à le prendre de vitesse, que ce soit Nembhard, que ce soit Haliburton, que ce soit Siakam. Il y a eu une volonté de le viser, il y a eu une volonté d'aller au rebond offensif, en sachant c'est pas que ça manque de taille, c'est comme on disait dans le podcast, les joueurs des Celtics sont grands, mais il n'y a pas non plus, il n'y a pas leur très grand. Et du coup, il y avait volonté d'aller au rebond offensif. Ils prennent 10 rebonds offensifs d'ailleurs. Ils en prennent moins que Boston au final, d'ailleurs, avec le recul, mais ils gagnent quand même la bataille au rebond. Il y a eu plusieurs choses, il y a eu de l'adresse comme tu l'as dit, rien à voir, mais le tir de Jalen Brown est incroyable, mais j'aimerais parler de Jason Tatum, j'aimerais te lancer sur Jason Tatum. Jason Tatum, on en parle peu depuis le début des playoffs, on parle beaucoup d'Anthony Edwards, il y a la narration, tu vois, on rentre dans le truc, Anthony Edwards c'est l'ascension jusqu'au statut de superstar, il y a eu des passages sur Shea, on a très peu parlé de Tatum, mais qu'est-ce qu'il est fort. En fait, alors on le sait, hein, je ne l'ai pas redécouvert là, ça me faisait plus, mais Tatum, il est physiquement à son max de ce qu'il a été depuis le début de sa carrière, sachant qu'il est aussi sans doute dans la tête. Il est tout aussi athlétique, tout aussi vif, peut-être pas tout aussi, mais tu vois qu'Anthony Edwards, en tout cas, il domine physiquement. Il défend extrêmement bien sur le dernier tir d'Haliburton, celui où Haliburton peut encore, parce que Jalen Brown, il met donc un tir ultra dur, super défense de Siakam. Haliburton, il a un tir derrière, en fait. Il a un tir à trois points derrière, mais la défense de Tatum, elle est excellente. Il va au rebond. Il prend plus de 10 rebonds par match depuis le début des playoffs. C'est leur meilleur rebondeur. Il fait tout, en fait. Il fait tout, Jason Tatum.
Il en prend 12 ce soir.
Il en prend 12 ce soir et il a plus de 10 de moyenne. Il va être prêt quasiment à 11 de moyenne après ce match. 4 passes, 3 interceptions, 36 points. Alors, il a été maladroit en fin de quatrième quart-temps. Mais derrière, il met 10 points en overtime.
Il met 10 d'essais. Boston met 16 points, il en met 10. Hein. Ouais.
Et presque autant que les Pacers. Les Pacers mettent 11 au final. Donc, tu vois, il est dominant comme un joueur qui mène son équipe au titre. Je ne dis pas que c'est les Celtics vont gagner le titre, mais Tatum joue comme un mec qui est prêt à mener son équipe au titre. Et sur ce match-là, je trouvais que ça se sentait. Et je parle, voilà, et malgré le fait qu'il a raté des tirs dans le quatrième quart-temps, on parle d'un mec qui a raté des tirs dans le quatrième quart-temps. Mais qui est au sommet, qui je pense est vraiment dans son prime là, c'est acté. C'est un Tatum beaucoup plus fort qu'en 2022 quand ils font finale NBA.
Ouais, et plus 20 son différentiel, son plus minus plus 20, ce qui est assez assez énorme.
Même sachant qu'il joue 46 minutes.
Voilà, il a joué 46 minutes, mais voilà. Jrue Holiday en a joué que 2 de plus, mais il a plus 7. Si je dis pas de bêtises, enfin, c'est ce que j'avais noté, c'est ça, ouais.
Qui a été excellent en attaque, Holiday.
Ouais, Holiday, c'est son record de la saison pour lui, 28 points. Il fait 28 points, 8 passes, 7 rebonds. Au niveau même, en fait, le trio a bien fonctionné, le trio Tatum, Brown et Jrue Holiday, parce que j'avais noté aussi que c'est la première fois qu'il y avait un trio qui finissait avec au moins 25 points et 3 interceptions dans un match. Et Holiday met 28 points, Tatum, tu l'as dit, 36. Et Jalen Brown en met, on a dit combien, 26, voilà. 26, donc le trio efficace parce qu'ils ont plutôt bien shooté, même Tatum, bon, il est en dessous des 50%, mais il a quand même shooté très correctement. Ils ont été actifs, adroits au bon moment et ça fait aussi la différence, quoi. Mais bon, Boston s'est rassuré sur le finish et t'as peut-être raison aussi, c'est suffisamment mis en garde par rapport à ce qu'ils risquaient dans le match 2, pour peut-être éviter les déconvenues qu'on avait vues contre Miami et contre Cleveland, où le Game 2 avait été assez catastrophique à chaque fois.
Et il y a un truc, c'est que les Celtics, on sait qu'ils se reposent beaucoup, beaucoup sur leur adresse à 3 points. Ils ont été très maladroits à 3 points pendant longtemps. Alors, ils finissent à 15 sur 45, donc ça donne 33%. Ouais. C'est pas catastrophique, mais en fait, pendant une grande partie du match, ils ont raté énormément de tirs à 3 points. Et souvent, on s'est demandé comment ils vont faire quand il n'y a pas d'adresse à 3 points, etc. Justement, les trois, Brown, Tatum, comme Holiday, surtout Holiday en post-up, par exemple, ont marqué beaucoup de points à l'intérieur, en fait. Ils sont allés chercher Brown, il est allé chercher des drives. Tatum, il est allé chercher des drives. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il fait la différence en prolongation. Et Holiday, il y a eu ses post-ups, les post-ups où il a l'avantage de taille sur Nembhard, où il est de toute façon excellent avec son physique et avec son corps, ou sur Haliburton, dos au panier. Et ça, c'est des atouts pour Boston, le fait de voir, on ne met pas de 3 points, on a d'autres solutions. Ils s'en sortent de justesse, mais je pense quelque part que c'est presque une bonne victoire pour eux, en fait. Après, c'est pas une mauvaise, c'est une bonne défaite aussi quelque part. Enfin, c'est une bonne défaite peut-être.
Les fameuses défaites encourageantes.
Il y a pas de bonne défaite. Ça peut être interprété comme une défaite encourageante effectivement pour les Pacers, mais je pense que les Celtics, d'avoir été maladroit, d'avoir été bousculé, de quand même aller gagner ce match, c'est intéressant pour une équipe qui a vu très peu d'adversité jusqu'à présent.
Oui, c'est ça. On parle toujours vu qu'on envisage tous Boston en finale, il ne faudrait pas que ce soit trop facile. Et ça, là-dessus, je suis assez confiant dans le fait que les Pacers ne vont pas rendre la tâche facile. On l'a vu dès le premier match, une prolongation. Mm. Et c'est à l'extérieur, donc en soi, c'est pas du tout catastrophique pour les Pacers. Ils auront des matchs à domicile. Ils sont invaincus à domicile, les Pacers. Hein, donc même s'ils perdent le prochain, il n'y a pas de drame. Ils sont capables d'en gagner un, voire deux. On l'a vu depuis le début des playoffs. Donc c'est bien, ça reste ouvert. En même temps, il y a une petite alerte pour Boston qui se dit on peut pas se la couler douce. En même temps, Indiana a les solutions pour l'embêter. Je trouve ça cool. C'était un match vraiment plaisant à suivre. En plus, j'avais toujours peur des matchs d'un match où t'as une équipe qui arrive un peu cuite et l'autre qui est toute fraîche et y a pas de suspense. C'était vraiment un bon match, en tout cas divertissant, avec des points, de l'adresse. Un match sympa quand même.
Ouais, les Pacers jouent très vite. Les Celtics ont voulu jouer très vite aussi. Donc il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de mouvement. Pour les Pacers, j'espère pour eux qu'il n'y aura pas de contre-coup, justement, parce que, comme je disais, le Game 1 de la série d'après, comme c'est dans la foulée, généralement, il y a encore l'euphorie de la qualification. Et derrière, on voit souvent un pic de sucre, tu vois, et après, tu redescends. les Pacers, ils ont déjà joué 3 matchs entiers, donc 3 matchs de plus, sans compter les prolongations en plus. Ils ont déjà joué des prolongues aussi, mais ils ont joué 3 matchs de plus que les Celtics depuis le début des playoffs. Donc il y a moyen qu'à un moment il y a un petit contre-coup physique, même si on sait que c'est une équipe qui tourne un peu plus. Et encore là je pense qu'au final, la rotation à ce stade de la compétition maintenant, même pour Indiana, ça va être 8 joueurs. J'ai l'impression que les Jackson, McDermott, Smith, on les verra pas. On verra McConnell, Toppin et un peu Shepard parce qu'il défend. Et c'est ces trois-là qu'on va avoir.
Shepard, on va le voir même sur les matchs précédents contre les Knicks. Là, il a beaucoup joué quand même. Enfin, pour un remplaçant, il a pas mal joué. Mais oui, t'as raison. Smith et Jackson, cette nuit, c'est 5 minutes en cumulé. 4 minutes pour Smith c'est ça. 4 minutes pour Smith et 1 minute pour Smith, pardon, et 4 minutes pour Jackson. Donc, ça s'est beaucoup reposé sur le trio.
On ne verra plus.
Ouais, sur le trio Toppin, McConnell, Shepard. Et c'est pas plus mal comme ça non plus.
Ouais. Donc il y aura une rotation un peu plus serrée. Il faudra voir ce que ça donne au niveau du coup de l'énergie. Mais oui, c'était un match vraiment plaisant, je suis d'accord. J'espère que c'est le signe d'un match 2 qui sera là aussi très disputé. Mais on a eu une belle entrée en matière pour des finales de conférence.
Ouais.
Allez, on peut peut-être enchaîner sur les All-NBA Defensive Team. Je ne sais même pas si le terme team est encore approprié. C'est-à-dire que...
c'est une liste de joueurs, quoi.
Ouais, c'est des listes de joueurs. J'espère qu'ils vont. C'est pareil pour les All-NBA Team. Là, il n'y a plus de position. C'est positionless. Tu sais ça ou pas? Je te pardonne.
C'est une très bonne question.
Parce que si c'est ça, en fait, ça va devenir du grand n'importe quoi. Bon, bref, on va les donner. Parce que ce qui se passe, pourquoi ça nous intéresse en tant que Français, c'est que Victor Wembanyama a été retenu dans le premier 5. C'est la première fois de l'histoire qu'un rookie termine dans le premier 5 défensif. Je vais te donner les équipes et après, je te donne la parole.
Ouais.
Donc, dans le premier 5, on a Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Anthony Davis au poste d'arrière et Herb Jones au poste de meneur. Ça, c'est le premier 5. Donc, All-NBA, All-Defensive Team. Et le deuxième 5, attention, Derrick White et Jrue Holiday, Jalen Suggs, Alex Caruso en poste 4 et Jaden McDaniels. Je dis poste 4, il n'y a évidemment pas de poste, hein, c'est une blague hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et Jaden McDaniels, qui est donc le cinquième joueur dans la All-NBA second defensive team.
Alors j'ai la réponse à notre interrogation. Alors ça va, on n'est pas si largué que ça. C'est que c'est la première année où ça va vraiment où il y a pas de position.
Oui, mais pour les défensives, mais ça je sais. Mais pour les All NBA, est-ce qu'il y a pas de position?
Ah oui. Eh bien, je rechercherai ultérieurement quand tu parleras.
Non, vas-y, je te laisse la parole.
Mais, sur ces All Defensive Team. Bon, ce qui frappe. Même si on s'habitue, on s'y habitue un peu, c'est de voir. Enfin, t'as deux Français dans le meilleur 5. Rudy Gobert, Victor Wembanyama, ce qui est logique parce qu'ils les deux étaient, il y en a un qui a gagné le trophée de défenseur de l'année et l'autre qui était sur le podium. Mais rien que ça déjà, ça fait plaisir. Et après, oui, j'aime bien le fait qu'il y ait des positions, ça ressemble un peu plus à une vraie équipe. Et là, t'as quatre intérieurs et un ailier, Herb Jones. Je suis très content par ailleurs qu'Herb Jones y soit parce qu'il est c'est vraiment un super défenseur. Et dans le deuxième, t'as que des arrières, hein, c'est ça. Ouais, Caruso, Lidé, White, bon, McDaniels, il peut jouer trois. Mais Suggs, c'est bon. Voilà, ça c'est pour le côté sans position que j'aime moins. Mais sinon, ça me paraît assez logique. J'ai pas l'impression qu'il y ait des grands oubliés. Voir Victor dedans, c'est assez logique aussi finalement. On avait débattu un peu de la légitimité de sa candidature. Il y a des gens qui étaient un peu contre parce qu'il jouait dans une équipe qui avait pas gagné, mais on en revient à la même discussion, là, pour le meilleur 5 défensif, c'est que c'est un joueur qui altérait tellement la défense de son équipe et l'attaque adverse à chaque fois qu'il était présent sur le terrain. Suffit de voir les stats avancer, même pour une équipe aussi avec un bilan aussi médiocre que San Antonio, que ça me choque pas. Et il est en très bonne compagnie parce qu'Anthony Davis fait une saison défensive magnifique. Bam Adebayo, c'est presque de facto le joueur qui est cité comme le meilleur défenseur par les gens par les autres joueurs qui sont pas fans de Rudy Gobert, par exemple. Souvent les joueurs disent, c'est Bam Adebayo ou Anthony Davis. Mais en tout cas, ils sont tous là et ça a plutôt fière allure. Aussi, dernière remarque, peut-être, je suis content de voir Jalen Suggs dans le deuxième 5. Ça a été une saison un peu de métamorphose pour lui. Il avait déjà montré ses aptitudes là sur les fois où il n'était pas blessé. Mais sa métamorphose est actée. C'est un super défenseur et en même temps, c'est un attaquant que je pense capable d'être compétent, j'aime bien ces équipes. J'aurais juste aimé un petit mélange avec des arrières et des postes plus traditionnels, quoi.
Je te confirme que pour les All-NBA, c'est pareil, il n'y a plus de position. Ouais. Donc ça peut littéralement devenir juste la liste des 15 meilleurs joueurs de la Ligue. Voilà, pourquoi s'embêter à faire des All-NBA teams quand tu peux juste dire qui sont les 5 meilleurs joueurs. Ok, les 5 meilleurs joueurs sont dans la première All-NBA.
C'est dommage parce que c'est ce que j'aime bien dans les trophées, dans les équipes comme ça, c'est quand tu regardes année par année, tu dis ah ouais, cette année c'était ça la meilleure équipe sur le papier, et ça te donne une petite photographie de l'époque. En fait, pour regarder les meilleurs joueurs de chaque année, à la limite, il suffit de regarder le top 10 des votes MVP, à la limite, tu vois. Là, j'aime bien le côté, ce serait ça le backcourt de cette année, tu peux comparer année par année, c'est plus sympa. Là, je trouve que c'est un peu moins de saveur, effectivement.
Ouais. Puis alors, je reviens sur les All Defensive Team, mais enfin, il y a un manque de respect envers les stoppers extérieurs qui se coltinent chaque soir les meilleurs attaquants du monde. Bon, après, j'imagine que Jaden McDaniels, Derrick White ou Jrue Holiday, ça les empêchera pas de dormir s'ils vont chercher un titre, mais
non, le chèque sera touché. Il y aura un petit chèque sympa quand même. Hein. Je pense que quand t'es le deuxième meilleur, dans le deuxième meilleur 5, t'as quand même un bonus ou un truc comme ça. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais du coup, je me demande là, si tu, en voyant le deuxième 5, quel joueur du deuxième 5 tu mets pour si tu dois faire un backcourt ou faire jouer un ailier, tu mets qui pour toi mérite plus que les autres d'être dans le meilleur 5.
Je suis influencé par les playoffs parce que j'allais mettre Jaden McDaniels, mais je sais pas si c'est sur la saison ça ou c'est sur les playoffs.
Ah, il a déjà été très bon pour la saison. Moi, j'hésitais aussi. Ouais, j'aurais peut-être dit McDaniels.
McDaniels et White, McDaniels Caruso, mais. S'il fallait prendre un Celtic, j'aurais pris White plutôt qu'Holiday.
Ouais.
Sur la saison. Hein. Je ne dis pas que c'est un meilleur défenseur, mais sur la saison, j'aurais peut-être pris White. Je trouve qu'Holiday, il se garde les moments où il défend maintenant. C'est, on a atteint le stade de sa carrière où c'est plus 40 minutes de Holiday intensive, comme j'ai pu voir sur Damian Lillard. C'est dans le dernier carton. Ok, là, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur Haliburton cette nuit. Hein. C'est dans le dernier carton que ça commence, qu'il commence à monter en pression. Donc peut-être McDaniels.
Holiday, il avait dit que ça avait un peu changé son approche quand il avait pris le bouillon face à Jimmy Butler. Il avait essayé de le défendre sur une longue période et et l'autre il marchait sur l'eau. Donc t'as raison, je pense qu'il a un stade où il gère un peu plus. Il peut aussi un peu plus gérer parce que c'est, il a quand même du monde autour maintenant. Enfin, non pas qu'il ait pas de monde à Milwaukee, hein. Il y a quand même Giannis, Middleton, c'est des défenseurs plus que compétents, mais là il y a vraiment une équipe avec avec des forts défenseurs à tous les postes. Donc c'est pas plus mal pour lui et pour les Celtics qui puissent s'économiser et garder de l'énergie pour les gros rendez-vous et enfin pour les gros moments dans les matchs.
Ouais, non, c'est clair, mais bon, en tout cas, ouais, c'est quand même un peu spécial de pas avoir d'extérieur. Mais j'ai peur pour les All-NBA, en fait. Vraiment, je suis concentré sur les All-NBA. Ça m'intrigue de me dire, mais comment ils vont faire? En fait, on va se retrouver des fois avec des années où il y a Embiid, Jokic et je sais pas. Bon, après, Embiid, Jokic, Wembanyama, tu sais. Après, ils pourront toujours le justifier. Bah ouais, Wembanyama, il tire à 3 points, c'est un 3. Jokic, il peut jouer 4. Enfin, bref, c'est. On verra ce que ça donne, on verra au moment où sortiront les All-NBA s'il y a des. Puis au pire, c'est c'est pas les trophées les plus importants de la saison, mais bon, là, c'est un peu particulier. On va se laisser là-dessus, Shai.
Ouais.
Vous pouvez toujours retrouver le podcast sur les finales de conférence, c'est toujours d'actualité, hein. Même qui plus que jamais d'actualité, évidemment, avec le Game 1 qui s'est joué hier entre Indiana et Boston. Et le Game 1 de ce soir entre Dallas et Minnesota. Donc, allez checker ça, c'est sur la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau CQFR où on débriefera du coup le match entre les Timberwolves et les Mavericks. Ciao, ciao.
Bonne journée.